On va passer sur une autre actualité et c'est celle de l'astronomie avec Michel Favré.
La Terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb qui découvrons des terres nouvelles qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Bonjour Michel Favré.
Bonjour Sandrine.
Vous avez passé de bonnes vacances, j'espère ?
Oui, si on peut dire. Oui.
Allez, retour sur la 66e chronique Astro. Merci encore à vous de rester fidèles à O2 Radio et de venir chaque mois nous présenter une nouvelle chronique. Alors, on va revenir peut-être sur le programme général. Michel, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui ?
Ben, comme d'habitude, il y a trois parties dans la chronique. D'abord, quelques actualités sur le mois écoulé, puisque c'est mensuel. Ensuite, un thème, si possible, en rapport avec l'actualité. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de parler de radioastronomie. Et ma grande surprise, on n'en avait jamais parlé. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le petit accident, un gros accident qui s'est produit à Arecibo donne l'occasion de parler des radiotélescopes. Et à la fin, la troisième partie, c'est toujours le ciel du mois pour que les auditeurs qui seraient intéressés sachent un petit peu ce qu'il y a à voir dans le ciel en ce moment pour tout le mois de septembre, puisqu'on arrive en septembre.
Voilà, alors on va commencer par un bilan de cette nuit des étoiles, des nuits des étoiles d'ailleurs.
Oui, puisque depuis plusieurs années, il y a trois nuits, c'est vendredi, samedi, dimanche. Donc comme nous avions consacré une bonne partie de la dernière chronique à cette manifestation nationale avec comme invité Corinne Yaya, présidente de Astronomie Gironde 33, à AG33, pour nous parler des animations prévues par cette association dans la région bordelaise, j'ai pensé qu'il serait intéressant d'en faire un petit bilan après coup. Au niveau national, l'AFA, Association française d'astronomie, qui est organisatrice de cette opération depuis 1991, n'a pas encore fourni de chiffres sur ce qui a été réalisé en 2020, sans doute parce que toutes les structures n'ont pas encore remonté leurs statistiques. Mais on peut déjà dire qu'en raison du contexte sanitaire rendant plus compliqué l'organisation de ces animations, il n'était prévu sur toute la France que 200 manifestations publiques par environ 160 structures locales, ce qui ne représente qu'environ la moitié de ce qui avait été réalisé l'année précédente. En tant que président d'un tout petit club d'astronomie en Dordogne, qui a dû renoncer à toute observation publique cette année car trop difficile à organiser par une petite équipe en respectant les règles sanitaires en vigueur, je dois dire que cette prévision me paraissait déjà assez ambitieuse. Probablement que tout n'a pas pu se faire selon les conditions météo locales ou des refus administratifs de dernière minute. En ce qui concerne AG33, Corinne m'a fourni quelques informations et les auditeurs intéressés peuvent aussi voir des images de ces soirées sur la page Facebook de l'association ou sur son forum. Pour le vendredi 7 août, à Mérignac, avec Cap Science et son site local Côté Science, Air et Espace, ainsi que la SAB, Société Astronomique de Bordeaux, il y avait un dispositif important avec de nombreux animateurs et télescopes, au moins une douzaine d'après ce que j'ai vu sur les photos, et le public est venu nombreux avec plus de 600 participants. Le lendemain, samedi 8 août, AG33 donnait rendez-vous au public sur son site d'observation habituel, le mémorial de la ferme de Richemont à Socats, où sont venus environ 400 participants pour observer dans les télescopes, bien sûr en respectant strictement les mesures sanitaires mises en place par les bénévoles. Ils ont pu admirer Jupiter avec ses satellites, Saturne et ses anneaux, des amas d'étoiles, des nébuleuses et des galaxies spirales vues de face ou sur la tranche. Ils ont aussi pu assister à deux conférences proposées à 21h30 sur l'histoire des femmes en astronomie et à 23h sur la planète géante Jupiter. Et bien entendu, s'initier à la connaissance du ciel étoilé et des constellations, expliquées par les animateurs pointant les étoiles avec un laser vert. Sans oublier, comme l'indiquait Corinne, dégustation de l'astro-café et de l'astro-chocolat que, selon elle, la galaxie entière nous envie. Le troisième jour des Nuits des Étoiles 2020, le dimanche 9 août, AG33 s'est déplacé jusque dans les Landes, sur le site de l'écomusée de Marquèze, pour proposer les mêmes animations, conférences et observations, mais l'effectif étant limité à 150 participants pour l'accès par le petit train, crise du Covid oblige. Il y avait aussi une exposition de dessins astronomiques par l'un des membres du club. On voit donc qu'AG33 reste l'un des clubs les plus actifs de la région pour l'ouverture de ses activités vers le public et j'invite nos auditeurs intéressés à ne pas hésiter à venir participer aux prochaines soirées publiques qu'ils organiseront et dont on trouve les dates sur leur site web. C'est tout simplement ag33.fr.
Alors ça, c'était pour faire le bilan de cette Nuit des Étoiles 2020, qui a été peut-être un peu particulière, mais qui finalement a trouvé, comme d'habitude, son public. On remercie et on dit bonjour à peut-être à Corinne, qui reviendra bien sûr sur Eau de Radio, nous présenter leurs activités. Je vous propose, Michel, c'est qu'on fasse un point tout de suite sur les missions martiennes 2020, puisque vous étiez venu en parler déjà.
Voilà, la dernière fois, nous avions parlé de l'envoi des sondes martiennes vers la planète rouge, qui, pour des raisons de mécanique céleste, part toutes de la Terre cet été, 3 mois environ avant l'opposition de Mars, le 14 octobre prochain, pour arriver en février 2021 en bénéficiant d'un trajet plus court entre les deux planètes. Au moment de la dernière chronique, il y avait déjà eu 2 lancements, un des Émirats Arabes Unis en coopération avec les États-Unis et le Japon, avec la sonde Al-Amal, ce qui doit vouloir dire « espoir » en arabe, qui avait décollé le 20 juillet, et l'autre chinoise, Tianwen, je pense, 1, propulsée par la nouvelle fusée Long March 5 le 23 juillet. Nous n'étions qu'à quelques jours du décollage de la sonde américaine Mars 2020, plus connue par son rover Perseverance, prévu le 30 juillet, ce qui a bien eu lieu. La NASA a eu une petite frayeur avec ce lancement, car quelques heures après l'engin spatial a connu une alarme grave, le conduisant à se mettre automatiquement dans un mode de sécurité dit sans échec, en limitant ses fonctions au strict minimum vital. Après analyse, il s'est avéré que cet incident était juste provoqué par un passage à une température très basse, que n'avait pas connu son frère jumeau Curiosity lors de son départ en 2012, car sa trajectoire avait été différente. Après quelques heures, tout est rentré dans l'ordre et la mission poursuit normalement son trajet d'environ 500 millions de kilomètres vers la planète rouge. Et puisque je parle des missions martiennes 2020, on peut aussi revenir sur l'une des missions de l'opposition précédente en 2018, c'est tous les 2 ans, avec l'atterrisseur américain InSight, destiné à mieux connaître le sous-sol de Mars. Contrairement à Curiosity ou Perseverance, ce n'est pas un rover et il ne se déplace pas à la surface de la planète. Il comprend principalement 2 expériences fournies par des partenaires européens, le sismomètre SEIS pour détecter les ondes sismiques parcourant le sol martien, développé par le CNES français avec d'autres partenaires européens et qui fonctionne parfaitement depuis son déploiement le 21 décembre 2018, un peu moins d'un mois après l'atterrissage de la sonde le 26 novembre. Par contre, l'autre instrument majeur, un détecteur de chaleur baptisé HP3, destiné à mesurer la température du sous-sol et détecter les flux de chaleur provenant du noyau de Mars, fourni par l'agence spatiale allemande DLR, a connu des difficultés de déploiement. Pour réaliser ces mesures, HP3 devait enfoncer dans le sol martien une sorte de long ruban de capteur jusqu'à une profondeur de 5 mètres. Malheureusement, le dispositif de forage prévu, la taupe, comme elle est surnommée, comportant une sorte de marteau percutant toutes les 4 secondes pour s'enfoncer coup après coup, n'a pas fonctionné comme prévu et n'est jamais parvenu à pénétrer complètement dans le sol, donc encore moins d'entraîner derrière elle le ruban de 5 mètres en une trentaine de jours comme c'était prévu. Depuis la Terre, les responsables de cette expérience ont tenté différentes manœuvres depuis 2019 pour essayer de résoudre le problème. La manœuvre de la dernière chance a consisté à essayer d'utiliser le bras de la sonde, équipé d'une sorte de pelle à son extrémité, pour carrément pousser la taupe dans le sol afin qu'elle puisse reprendre son martelage et progresser. Comme toujours pour des missions spatiales, toutes les opérations sont longues et minutieuses, et cette tentative commencée en février dernier n'a abouti que cet été. Le 10 août, dans un communiqué du responsable scientifique de HP3, on annonçait que la taupe était complètement rentrée dans le sol martien, que la pelle qui la poussait avait été retirée. Avant de reprendre la progression par percussion, l'équipe a décidé de reboucher le trou qui s'est formé pour enterrer complètement l'engin. On croise les doigts pour que cet instrument puisse enfin être déployé comme prévu avec presque 2 ans de retard, car il nous permettrait de mieux connaître la structure interne de Mars, InSight étant la première sonde dédiée à ce domaine.
Alors on croise les doigts aussi, et on va parler du côté des missions humaines maintenant.
Alors, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, nous sommes probablement encore très loin d'une future mission habitée vers Mars, mais cela n'empêche pas la poursuite des lancements de capsules habitées vers l'ISS, la Station Spatiale Internationale, en attendant de viser la Lune peut-être dans quelques années. Ces derniers mois, nous avions salué la réussite de la première mission réalisée par un opérateur privé, SpaceX, avec l'envoi le 20 mai de deux astronautes de la NASA jusqu'à l'ISS à bord de la capsule Crew Dragon. Et nous attendions l'achèvement complet de cette opération avec le retour sur Terre prévu début août. Et c'est sans encombre qu'ils ont atterri dans l'Atlantique, au large des côtes de la Floride, le dimanche 2 août en soirée, vers 21h heure française, après un trajet retour assez long de presque 19 heures. Le succès de cette mission de test, la première avec un équipage à bord, qualifie ce dispositif pour de futurs lancements de routine, si je peux dire. Le prochain étant prévu cet automne, vers la fin octobre, avec cette fois 4 astronautes, 3 Américains, dont une femme, et un Japonais, ce qui portera à 7 l'équipage de l'ISS, qui est habituellement limité à 6 par les transferts avec les Soyouz russes, qui ne comprennent que 3 places. En théorie, la capsule Crew Dragon pourrait même être configurée pour accueillir jusqu'à 7 astronautes à la fois. À noter que le spationaute français Thomas Pesquet, prévu pour une nouvelle mission vers l'ISS au printemps 2021, devrait en principe y aller à bord de cette nouvelle capsule. Rappelons que dans ce domaine des lancements privés vers l'ISS, SpaceX a un concurrent avec Boeing et sa capsule CST-100 Starliner, mais celle-ci ayant échoué à sa première mission de test non habitée vers l'ISS en décembre, elle doit recommencer ce test peut-être d'ici la fin de l'année, mais sans date définie à ce jour, ce qui repousse donc le premier test habité en 2021, avec un retard certain sur SpaceX. La compagnie d'Elon Musk a d'ailleurs enregistré un autre succès en août, le 5 pour être précis, quelques jours après le retour réussi de Crew Dragon sur Terre, démontrant le savoir-faire de cette société de son PDG pour ses opérations de communication publique. Il s'agissait d'un test de lancement de la nouvelle version de son vaisseau Starship depuis la base de Boca Chica au Texas. Le vol n'a duré que 42 secondes et n'a atteint que l'altitude de 150 mètres avant le retour en douceur sur Terre. Il est analogue à ce qui avait déjà été réussi avec une version précédente du prototype un an plus tôt, en août 2019, prototype qui avait malheureusement explosé lors d'opérations au sol en novembre dernier. Starship est le deuxième étage d'un lanceur super lourd, baptisé Super Heavy, que SpaceX destine à des vols habités lointains, par exemple jusqu'à Mars. D'autres tests courts du Starship sont prévus, avec un lancement jusqu'à 20 km d'altitude bientôt, mais on voit qu'on est encore bien loin d'atteindre Mars.
Bien sûr, ça a été un été actif quand même.
Oui,
pour l'astronomie.
Ça ne s'arrête jamais.
Ça ne s'arrête jamais, oui.
Voilà. Et il y a des rendez-vous incontournables, comme par exemple avec Mars, je l'ai expliqué la dernière fois, où c'est tous les 2 ans qu'on peut bénéficier du trajet le plus court entre les deux planètes. Et donc, c'est tous les 2 ans que toutes les missions martiennes partent à peu près en même temps.
Et Mars intrigue, toujours.
Voilà. Ouais. C'est la planète la plus facile à atteindre pour nous. C'est à peu près en 6 mois de voyage. Et il faut imaginer que pour aller vers Jupiter, ça prend en général 5 à 7 ans. Saturne, c'est encore plus long. Donc parmi les quelques candidats possibles à la découverte d'une vie dans le système solaire, parce qu'on cherche toujours ça, donc des endroits où il y a de l'eau, ce qui existe sur certains satellites de Jupiter et de Saturne, Mars est la destination la plus facile à atteindre. C'est pour ça qu'il y a tant de missions vers Mars, parce que c'est le plus facile pour nous.
Très bien. Alors on va revenir sur l'actualité, sur les dégâts sur l'un des plus grands télescopes du monde. J'en parlais dans le sommaire de ce journal.
Voilà. Alors nos auditeurs connaissent certainement l'énorme radiotélescope d'Arecibo sur l'île de Porto Rico pour l'avoir vu dans des films comme Contact en 1997 avec Jodie Foster ou le James Bond GoldenEye en 1995 avec Pierce Brosnan pour la première fois dans le rôle du célèbre espion britannique. Il a servi de décor impressionnant à d'autres films ou des épisodes de la fameuse série de science-fiction X-Files, car c'est un site assez unique, avec son immense réflecteur sphérique de 305 mètres de diamètre, couvrant entièrement une dépression naturelle, renvoyant les rayons captés vers un récepteur de 900 tonnes qu'il surplombe, suspendu à des câbles supportés par 5 mâts de 80 à 110 mètres de haut, répartis tout autour de la coupole. Le 10 août dernier, un peu avant 3 heures du matin, heure locale, pour une raison indéterminée à ce jour, c'est l'un de ces câbles de 7 cm de diamètre, on voit qu'ils ne sont pas petits, qui a cédé lors d'une manœuvre et qui a abîmé dans sa chute une partie de la coupole, ouvrant une brèche d'une trentaine de mètres en arrachant ou endommageant environ 300 panneaux réflecteurs sur les presque 39 000 qui la composent. Le radiotélescope est bien entendu hors service et on attend pour les prochains jours une estimation des réparations nécessaires et le planning des travaux pour le rendre de nouveau opérationnel. Avec sa taille imposante et donc sa possibilité de détecter des signaux très faibles, c'est ce radiotélescope qui permet notamment de rester en contact avec les sondes Voyager, les plus éloignées de la Terre, puisqu'elles sont arrivées aux confins du système solaire, là où l'influence du Soleil est concurrencée par celle des étoiles voisines, à environ 22 milliards de kilomètres de nous. Hein, ça fait quand même bien long. À noter que s'il est resté longtemps le plus grand radiotélescope du monde, Arecibo a été dépassé en juillet 2016 lors de la mise en service du FAST, hein, ce qui veut dire 500 Meter Aperture Spherical Telescope, par la Chine, d'une structure analogue à Arecibo, mais, comme son nom l'indique, d'un diamètre de 500 mètres. Pour ceux que les grands radiotélescopes intéressent, je signale que la France n'est pas en reste, avec celui de Nançay, en Sologne, près de Vierzon, qui, avec son antenne primaire de 200 mètres de large et 40 mètres de haut, peut être considéré comme le quatrième du monde, pour ce qui concerne les installations mono-antennes, car il existe aussi des installations comprenant des réseaux de plusieurs petites antennes paraboliques, comme l'ALMA, radiotélescope européen installé au Chili, avec 66 antennes de 7 à 12 mètres de diamètre. Le site de Nançay est ouvert au public pour sa visite, et je l'ai revu encore en novembre 2017 avec mon petit club astro à l'occasion d'une de nos sorties sur des sites d'astronomie.
Oui, ça peut être une occasion de voyager.
Oui, alors de Bordeaux, ça fait un tout petit peu plus loin. Je sais que de Périgueux ou Dordogne, où je suis, c'est à peu près à 3 heures de route.
C'est quoi les conséquences là, de cet accident, du coup là, pour le,
ben, le télescope est à l'arrêt, hein. Il ne peut plus fonctionner. C'est un peu comme si, si je prends l'exemple d'un télescope optique, hein, avec un miroir en verre, on avait fait une grosse rayure dessus. Il ne peut plus donner de belles images, ça ne peut plus marcher. Quoi. On a des photos, on peut trouver assez facilement des photos sur Internet pour les auditeurs que ça intéresse. On voit que les dégâts sont quand même assez considérables.
J'imagine que les frais sont assez importants pour la réparation.
Oui, alors le télescope est à Porto Rico, mais je ne l'ai pas dit dans la chronique, il est en fait opéré par une université américaine. Donc en fait, c'est un télescope américain, mais il n'est pas installé sur le sol des États-Unis.
Très bien. Allez, pour finir, quelques nouvelles de Betelgeuse.
Betelgeuse,
pardon. Je savais que j'allais me tromper.
C'est pas grave. Hein. En janvier dernier, mais ça paraît loin avec tout ce qui s'est passé depuis la mise en pause de la chronique pour 6 mois, j'avais évoqué cette étoile très brillante qui représente l'épaule droite dans la figure de la constellation hivernale d'Orion, le chasseur, l'une des plus belles du ciel selon de nombreux astronomes. En effet, bien que les variations de son éclat soient connues de longue date, sa luminosité n'avait jamais baissé autant que l'hiver dernier, au point d'être dépassé par Rigel, le pied gauche d'Orion. La plupart des astrophysiciens s'accordent sur le fait que ces variations témoignent d'une certaine instabilité, annonciatrice de l'explosion prochaine de cette géante rouge en supernova. Alors prochaine au sens de l'astronomie, hein, car cette catastrophe peut se produire aussi bien dans quelques années que dans 1000 ans. Je rappelle que cette étoile est monstrueuse comparée à notre Soleil, puisqu'elle aurait un diamètre d'environ 1000 fois plus grand, et met plus de 30 ans à effectuer une rotation complète, alors que le Soleil ne met que 25 jours. Depuis ce printemps, Betelgeuse a retrouvé son éclat normal, mais les chercheurs continuent d'essayer de comprendre ce qui s'est passé cet hiver, avec les nombreuses observations qui ont pu être faites, notamment par le radiotélescope ALMA, dont je parlais, car avec le déploiement de ses antennes sur une base de 16 km, il permet d'obtenir une finesse d'image équivalente à un radiotélescope de cette taille. À cette échelle, Betelgeuse n'apparaît plus comme un simple point, ce qui est le lot de toutes les étoiles dans la plupart des télescopes, mais comme un petit disque sur lequel ALMA avait mis en évidence une grosse tache beaucoup plus brillante que le reste de la surface, qui, elle, semblait refroidie, donc moins brillante que lors des mesures précédentes réalisées par le télescope spatial Hubble en 1996. Des observations faites avec le VLT, hein, le Very Large Telescope, donc européen aussi, au Chili, montraient au contraire l'existence d'une tache sombre qui voilait une partie de la surface de l'étoile. Ces deux observations ne se portant pas forcément contradictoires, puisque réalisées dans des longueurs d'onde différentes. C'est ce que propose l'équipe d'Andrea Dupré, une astrophysicienne américaine du Center for Astrophysics de Harvard, dans un article publié le 13 août dans la revue Astronomical Journal. Selon cette étude, Betelgeuse aurait éjecté une très grande masse de gaz, comme on peut le voir souvent sur les images des satellites qui observent notre Soleil, hein, SO et SDO, on a les images en ligne sur Internet. C'est ce qu'on appelle des éjections de masse coronale ou EMC, sauf que là, c'était à l'échelle monstrueuse de cette énorme étoile. Le jet aurait été dirigé grosso modo en direction de la Terre, et en se refroidissant, et avec la poussière de carbone qu'il contenait, il aurait formé un nuage sombre, nous masquant une partie de l'étoile et réduisant donc son éclat. Cette théorie serait compatible à la fois avec les observations du VLT, révélant la zone sombre, et celle de l'ALMA, celle-ci étant réalisée dans les grandes longueurs d'onde pour lesquelles le nuage de poussière est transparent, révélant la zone active brillante située derrière. En effet, la poussière laisse mieux passer la lumière dans l'infrarouge que dans le spectre visible, et pour le comprendre simplement, je prends souvent cette image très approximative. Supposons qu'on tire à l'arc dans une forêt très dense, mais avec des flèches tordues, qui adoptent une trajectoire en zigzag, ce qui figure les ondes lumineuses. Si le zigzag est rapide, donc aux courtes longueurs d'onde de la lumière visible, la probabilité est grande que la flèche rencontre un tronc d'arbre et n'aille pas très loin. Avec des zigzags plus amples, les grandes longueurs d'onde de l'infrarouge, il y a plus de chances d'éviter les arbres et d'aller plus loin, voire que la flèche sorte de la forêt, qui figure le nuage de poussière. Le modèle proposé par Andrea Dupré est néanmoins contesté par d'autres astrophysiciens qui mettent en avant d'autres mesures, comme un assombrissement général de l'étoile aussi dans l'infrarouge. Et il faudra sans doute attendre quelques mois pour que ce débat finisse par aboutir à une solution qui recueillera un large consensus dans la communauté des astronomes.
Allez, on va parler des radiotélescopes maintenant.
Oui, alors avec la mésaventure survenue à Arecibo, j'ai eu l'idée de parler un peu plus de la radioastronomie, sujet que je crois n'avoir jamais traité durant presque 6 ans de chronique, et ça me surprend un petit peu. En effet, à côté des télescopes optiques, dont tout le monde connaît les grandes coupoles abritant lunettes ou télescopes, tout un pan de l'étude du cosmos repose sur la radioastronomie, donc l'observation dans des ondes radio, des longueurs d'onde bien plus grandes que celles de la lumière visible. Même si ce sont toutes des ondes électromagnétiques de même nature, on utilise pour les capter des installations radicalement différentes, ressemblant souvent à des grandes antennes radar. Pour en voir une, il n'est pas nécessaire de se déplacer très loin, comme à Nancy, dont je suggérais la visite tout à l'heure, car il y en a un exemple dans l'agglomération bordelaise, tout près d'ici, à Florac. En effet, sur le site de l'Observatoire de Bordeaux, à côté des coupoles blanches, on pouvait facilement apercevoir l'antenne du radiotélescope baptisé Würzburg, avant son repliage dans une position d'attente depuis la fermeture de l'observatoire. Je rappelle que l'avenir de ce site, dépendant de l'Université de Bordeaux, n'est pas encore bien défini depuis le départ des chercheurs vers le pôle universitaire de Talence en 2016, et qu'une association baptisée Sirius essaie de préserver ce patrimoine pour le destiner à l'ouverture au public et réhabiliter certains de ses instruments pour l'exploitation par des astronomes amateurs. Avec ses 7,50 m de diamètre, l'antenne Würzburg évoquait une parabole métallique de radar, et pour cause, c'était bien une antenne de ce type récupérée après la dernière guerre pour être exploitée en astronomie, d'abord à l'observatoire de Paris, sur le site de Meudon de 1947 à 62, avant d'être transférée à Bordeaux. Sa taille déjà imposante permettait d'imaginer les installations de l'ALMA avec des paraboles de taille comparable, mais réunies à 66 sur le même plateau du Chili. Il existe dans le monde des dispositifs bien plus grands, jusqu'à 100 mètres pour une antenne orientable, pour celui de Green Bank aux États-Unis, ou le télescope Lovell de 76 mètres en Angleterre qu'on peut voir dans le clip de la chanson The Bitter End du groupe Placebo, qui est filmé dans la parabole et donne une bonne idée de l'échelle de telles installations. Et bien sûr, des antennes fixes encore bien plus grandes, comme à Nancy de 200 mètres, je l'ai dit, à Arecibo 305 mètres ou le FAST en Chine de 500 mètres. Ce gigantisme s'explique assez simplement par une loi optique. Le pouvoir de résolution d'un instrument, donc sa faculté de montrer des petits détails des objets observés, est fonction du rapport de la longueur d'onde divisée par la taille de l'instrument. Comme en radioastronomie, on observe dans de grandes longueurs d'onde, il faut des instruments bien plus grands que dans le domaine visible, dont les longueurs d'onde sont bien plus courtes.
Mais à quoi correspondent donc ces différentes longueurs d'onde ?
Alors pour faire un bref historique à propos des ondes électromagnétiques à nos auditeurs, on peut rappeler que c'est le physicien anglais Isaac Newton, connu aussi pour sa théorie de la gravitation universelle, qui a démontré à la fin du XVIIe siècle, vers 1670, que la lumière blanche du soleil se décompose en différentes couleurs, du rouge au violet, en passant par l'orange, le vert et le bleu, quand on la fait traverser un prisme, exactement comme ce qui se produit avec les arcs-en-ciel. Dans ce cas-là, c'est les gouttes d'eau qui décomposent la lumière. Il a d'ailleurs utilisé le terme de spectre pour qualifier cette image, comme on désignait à cette époque tous les phénomènes optiques un peu fantomatiques et inexpliqués, terme qu'on retrouve encore aujourd'hui dans des disciplines scientifiques comme la spectroscopie ou la spectrographie. C'est plus d'un siècle plus tard, en 1800, que l'astronome britannique d'origine allemande et par ailleurs compositeur de musique William Herschel découvre presque par accident que ce spectre visible se prolonge aussi au-delà du rouge, avec ce qu'on appelle l'infrarouge. Il a mis en évidence ces rayons caloriques, comme il les appelait à l'époque, en refaisant l'expérience de décomposition de la lumière de Newton et en appliquant un thermomètre à différents endroits du spectre pour voir s'il y avait des différences dans l'énergie thermique procurée par les différentes couleurs, et s'apercevant avec surprise qu'il existe un rayonnement encore détectable au-delà du rouge, où nos yeux ne perçoivent pas de lumière. Et dès l'année suivante, un physicien allemand, Johann Wilhelm Ritter, démontre qu'il en va de même de l'autre côté du spectre, au-delà du violet, avec ce qu'on baptise aujourd'hui les rayons ultraviolets. Mais cette fois, en s'intéressant aux réactions chimiques que peuvent induire les différents rayonnements, en utilisant du papier imbibé de iodure d'argent, donc une forme de papier photographique. À la fin du XIXe siècle, en 1895, Wilhelm Conrad Röntgen montre que les rayons X, comme il les a baptisés, découverts quelques années plus tôt, sont aussi capables d'exposer une plaque photographique en réalisant les toutes premières radiographies, car ils sont tellement énergétiques qu'ils traversent la peau et les chairs, révélant les os. Et un physicien français, Paul Villard, découvrira en 1900 des rayons encore plus énergétiques, les rayons gamma, dans la suite des travaux sur les matières radioactives menés par Henri Becquerel et les époux Curie. Tous ces types de rayonnements entrant dans le cadre des ondes électromagnétiques, dont les équations ont été formulées par le physicien écossais James Clerk Maxwell en 1864. Pour fixer les idées, on peut rapidement décrire les différentes parties de ce spectre électromagnétique selon leur longueur d'onde. La partie visible, c'est-à-dire que nos yeux permettent de voir, va de 380 nanomètres pour le violet à 750 nanomètres pour le rouge profond, le nanomètre étant une mesure de longueur très petite, égale à 1 milliardième de mètre ou 1 millionième de millimètre. Pour donner une illustration de sa valeur, un cheveu humain fait environ 2 centièmes de millimètre, soit 20 000 nanomètres. Dans les longueurs d'onde plus courtes, on est dans le domaine des ultraviolets, avec les rayons X à moins de 10 nanomètres et les rayons gamma encore bien plus courts. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui pour la radioastronomie, ce sont les rayonnements infrarouges, donc de plus de 750 nanomètres, avec le domaine dit submillimétrique, entre 1 dixième et 2 mm et 1 mm, les micro-ondes, comme celles de nos fours ou utilisées par les radars, entre 1 mm et 1 mètre, et les ondes radio longues au-delà de 1 mètre, comme celles utilisées pour les émissions de radio. Pour O2, qui diffuse en modulation de fréquence à 91,3 MHz, si je ne me trompe pas, cela correspond à une longueur d'onde de l'ordre de 3 mètres. Donc on voit qu'elle est très longue. La radioastronomie concerne toutes les grandes longueurs d'onde, depuis le domaine submillimétrique jusqu'aux ondes radio décamétriques, donc de longueur d'onde entre 10 mètres et 100 mètres, car en pratique, on ne peut pas observer au-delà, l'atmosphère ne laissant pas passer les ondes plus longues qui sont bloquées par l'ionosphère, c'est une couche située au-delà de 60 km d'altitude, dans laquelle les gaz sont partiellement ionisés, donc gênant le passage des ondes électromagnétiques. On remarquera au passage que toutes ces longueurs d'onde captées par les radiotélescopes sont aussi utilisées volontairement par d'autres activités humaines, comme par exemple pour les radars, les fours à micro-ondes ou les téléphones portables, ou créer involontairement de manière parasite par nos équipements électroniques, comme les micro-ordinateurs par exemple, ou même les moteurs de nos véhicules. Il est donc important de limiter toutes ces émissions à bord des observatoires radioastronomiques.
Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre quand même, je découvre en tout cas, que la radioastronomie commence avec ses découvertes du début du XXe siècle.
Alors en fait, le démarrage de cette nouvelle technique d'observation de l'espace a été assez lent, et elle ne s'est vraiment développée que dans la deuxième moitié du siècle. Après le début de l'utilisation des ondes radio pour les communications, avec l'invention du télégraphe sans fil, ou TSF, ancêtre de la radio, par l'italien Marconi en 1897, ce qui lui a valu le prix Nobel de physique en 1909, des chercheurs ont l'idée, dès le début du XXe siècle, d'utiliser les grandes antennes pour essayer de capter des ondes provenant de l'espace, mais ils échouent. En fait, ils n'ont pas de chance, car leurs expériences ont lieu dans une période de minimum de l'activité solaire, alors que notre étoile aurait pu fournir la source la plus facilement détectable, car proche et puissante. Il faut donc attendre 1933 pour qu'un ingénieur travaillant pour la compagnie Bell, aux États-Unis, détecte avec une de ses grandes antennes des signaux radio qui se répètent toutes les 23h56, la durée de la rotation sidérale de la Terre, ce qui indique sans ambiguïté leur provenance cosmique, probablement depuis des étoiles. En 1935, il arrive même à déterminer qu'une de ces sources serait le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Puis, en 1936, maximum de l'activité solaire, les postes de radio reçoivent de nombreux parasites provenant du Soleil, mais on ne fait pas leur approchement jusqu'en 1942, où un certain JSA, qui travaille sur les premiers radars, détecte des émissions dans la longueur d'onde de 1 mètre et établit que leur origine sont en fait les taches solaires. Le tout premier radiotélescope a été construit dès 1936 par un radioastronome amateur américain, Grote Reber, qui reste le seul à tenter ce genre d'observation pendant 10 ans jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où les recherches commencent avec du matériel militaire recyclé, Dès 1947 en France, comme je vous l'ai dit à propos des antennes Würzburg de l'Observatoire de Paris puis de Bordeaux, un réseau de 32 antennes est inauguré sur le site de Nancy en 1956. Le grand radiotélescope de Nancy est inauguré en 1965 par De Gaulle, alors que celui d'Arecibo est entré en service en 1963. Donc on voit que c'est plutôt la deuxième moitié du XXe siècle. Pour ce qui concerne les grandes découvertes, c'est aussi la deuxième moitié du XXe siècle. En 1951, Harold Even et Edward Purcell détectent l'arrêt de 21 cm de l'hydrogène, je vais revenir dessus, dans la Voie lactée. Et en 1963, les fameux Penzias et Wilson, prix Nobel de physique en 1978, découvrent par hasard le rayonnement du fond diffus cosmologique, le prenant au départ pour une réception parasite de l'antenne sur laquelle ils travaillaient. C'est une découverte fondamentale pour l'astrophysique, puisqu'elle vient confirmer le modèle théorique du Big Bang, dans lequel un tel rayonnement avait été prédit dès 1948 par George Gamow, un astrophysicien américain d'origine russe, avec ses étudiants Alfer et Hermann, dans leur développement des travaux de Georges Lemaître, l'inventeur de la théorie du Big Bang, en 1931.
Alors pourquoi observer l'espace dans des longueurs d'onde de la radio ?
Alors la réponse est assez simple. Selon les longueurs d'onde qu'on utilise pour observer, on peut voir des choses différentes dans le cosmos ou des aspects différents des mêmes objets, comme par exemple les étoiles ou les galaxies. Pour faire simple, les objets très énergétiques ont tendance à émettre dans les rayonnements de courtes longueurs d'onde, comme par exemple les gaz très chauds qui tombent dans un trou noir. Alors que les grandes longueurs d'onde sont généralement le domaine des objets plutôt froids, comme les grands nuages de gaz moléculaires, la poussière ou l'eau présente dans l'univers, surtout sous forme de glace. Dans l'appelage des ondes submillimétriques, donc entre 1/10 et 1 mm à peu près, on va surtout observer les nuages de poussière interstellaire, notamment constitués de petits grains de carbone très fins, un peu comme de la suie. Chauffés par le rayonnement des étoiles voisines à des températures de l'ordre de 5 à 340 Kelvin, si je traduis en degrés Celsius dont on a l'habitude, c'est entre moins 268 et 70, donc on voit que ce n'est pas très chaud. Cette poussière émet dans des longueurs d'onde submillimétriques, ce qui permet d'étudier leur répartition au sein de notre galaxie, la Voie lactée, ou même d'autres galaxies proches. Cette poussière joue un rôle important dans la formation des nouvelles étoiles, tout comme les nuages moléculaires et l'eau, aussi étudiés dans cette plage du spectre, et où observent notamment les antennes de l'ALMA, le grand radiotélescope européen du Chili, débordant même sur le domaine millimétrique. Outre les observations de grandes structures interstellaires, ces études peuvent aussi concerner l'atmosphère des planètes du système solaire ou la surface des étoiles, comme on l'a vu avec Bételgeuse et sa fameuse tache claire. C'est dans le domaine des micro-ondes millimétriques, donc de l'ordre du millimètre jusqu'au centimètre, que se situe le fameux rayonnement du fond diffus cosmologique, comparable à une image fossile de notre univers au début de son histoire, vers à peu près 380 000 ans après le Big Bang. Pour l'étudier dans son entier sur tout l'espace et pouvoir détecter des infimes variations nécessitant des capteurs refroidis à très basse température, on a eu recours à des radiotélescopes spatiaux. COBE au début des années 1990, puis WMAP au début des années 2000, tous deux des télescopes de la NASA, et enfin Planck de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, de 2009 à 2013. À chaque fois, on a affiné les détails de l'image, ce qui doit permettre aux astrophysiciens de mieux comprendre certains phénomènes survenus au début de l'histoire de notre univers et d'améliorer notre modèle du Big Bang. Les micro-ondes centimétriques, donc en centimètres, sont plutôt le domaine d'étude des pulsars, ces cadavres d'étoiles ou étoiles à neutrons, qui émettent un faisceau d'ondes radio dont la réception se répète régulièrement avec leur rotation un peu comme un phare, mais avec des pulsations, d'où le nom de pulsar, très rapides, de l'ordre de quelques millisecondes à une seconde. L'étude de l'évolution des pulsars au fil du temps doit permettre de mieux comprendre ces objets très denses afin d'en définir la structure et les phénomènes qui s'y déroulent, connaissance entrant dans le champ plus global de notre compréhension des étoiles. L'étude des pulsars s'étend même jusqu'aux ondes décimétriques, des longueurs d'onde de 10 cm à 1 mètre, mais cette plage du spectre contient une longueur d'onde bien particulière faisant l'objet de nombreuses observations, l'arrêt de 21 cm de l'hydrogène neutre. L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers et de très loin, et quand il n'est pas concentré dans les étoiles à des températures très élevées, il est présent sous forme d'immenses nuages dans la galaxie, formés par des atomes d'hydrogène neutre, c'est-à-dire constitués d'un proton et d'un électron. Selon la mécanique quantique, celui-ci, l'électron, possède un spin que l'on peut voir un peu comme une rotation très rapide, soit dans le même sens que le proton, autour duquel il se déplace, soit dans le sens opposé. Et quand il passe de l'un à l'autre de ces états, hein, on parle de transition de l'électron, il émet un peu d'énergie sous forme de cette radiation de longueur d'onde de 21 cm. La détection de ce rayonnement par des radiotélescopes, par exemple le grand radiotélescope de Nancy, permet donc de cartographier les grands nuages d'hydrogène de notre galaxie et donc de mieux connaître leur répartition, permettant de mieux comprendre la dynamique de la Voie lactée. Comme on peut le voir avec ce panorama un peu rapide, la radioastronomie concerne différents domaines de la connaissance du cosmos et constitue un outil indispensable en complément de l'astronomie optique avec les télescopes opérant dans le domaine du visible ou du proche infrarouge.
Eh ben c'est tout un pan de l'histoire que je ne connaissais pas. Michel, merci à vous. Donc c'est toujours d'actualité la radioastronomie.
Ah, plus que jamais.
Plus que jamais, oui. Très bien.
Oui, l'ALMA a été mis en service, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a seulement quelques années. Hein. C'est un radiotélescope très récent au Chili. C'est le plus puissant du monde aujourd'hui avec ses 66 antennes. Et comme je l'ai expliqué, mais ce serait un peu long de rentrer dans les détails, quand on combine les informations provenant de plusieurs radiotélescopes éloignés d'une certaine distance, là c'est 16 km au maximum, ça fait un peu comme si on observait avec un radiotélescope de 16 km de diamètre. Donc quelque chose de très grand qui permet d'avoir des détails très très fins. Et donc avec ALMA, on découvre des choses intéressantes. On avait parlé ici, et je pense qu'on en avait largement parlé dans les médias aussi, de la première image d'un trou noir qui avait été réalisée il y a quelques mois. Bien, ça a été fait par le même genre de technique, mais là en utilisant des radiotélescopes répartis partout dans le monde. Donc comme si on avait un radiotélescope presque aussi grand que la Terre en entier. Donc on voit qu'encore aujourd'hui, c'est un domaine de l'astronomie qui est très très actif.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir toute la chronologie de ces recherches, de ces découvertes.
Oui, c'est relativement récent. On pense parfois que l'astronomie remonte à des siècles, ce qui peut être vrai pour l'astronomie optique, puisque ça commence grosso modo avec Galilée, hein, la lunette de Galilée, donc à la fin des années, vers 1610, 1609-1610. Mais pour la radioastronomie, on a vu que c'était beaucoup, beaucoup plus récent. C'est 20e siècle et plutôt même deuxième moitié du 20e siècle. On vit quand même une époque assez formidable du point de vue de l'astronomie où on a des découvertes très, très récentes, des nouvelles techniques qui sont apparues il y a quelques dizaines d'années seulement et qui nous en ont appris énormément sur le cosmos. Quand on regarde quelle pouvait être la connaissance au début du XXe siècle, à l'époque d'Einstein, hein, de la relativité générale, et ce qu'on connaît aujourd'hui du cosmos, c'est incroyable ce qu'on a progressé. C'est fantastique.
On est peut-être qu'au début, non ?
Ben, ça va continuer, j'espère bien.
Bon, allez, on va parler du ciel du mois. Donc, c'est la dernière partie de cette chronique.
Voilà, Michel. Alors, comme chaque mois, je renvoie les éditeurs vers la rubrique Le ciel du mois, hein, le même nom, de la section astronomie de notre site web, hein, www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org. pour voir les cartes du ciel, parce qu'à la radio, ce n'est pas facile de montrer des cartes, et avoir plus de détails. Je mets un peu plus de choses sur le site web que je le dis ici. Je pense que je la mettrai à jour à la fin de la semaine, le week-end ou en tout début de semaine prochaine, puisque c'est pour septembre. La situation aujourd'hui n'est pas très différente de celle que j'ai décrite le mois dernier, car en ce moment, le décalage progressif du ciel au fil des saisons, hein, c'est 2 heures par mois, hein, de décalage, est presque compensé par le raccourcissement des journées et une nuit qui survient de plus en plus tôt. En ce moment, le soleil se couche vers 20h45 et la nuit arrive vers 22h, et même il faut attendre 22h30 si on veut un ciel bien noir. À la fin septembre, le coucher sera une heure plus tôt, vers 19h45, et la nuit vers 20h45. En tout début de nuit, ce sont les constellations typiques de l'été qui occupent la plus grande partie du ciel, vers le sud, et celles de l'automne qui commencent à pointer vers l'est. La voûte étoilée est dominée par la figure caractéristique du triangle de l'été, formé par 3 étoiles brillantes qui sont bien visibles dès le crépuscule et permettent facilement de situer les 3 constellations auxquelles appartiennent. C'est Vega de la Lyre, la plus brillante et la plus haute, hein, presque au zénith, c'est-à-dire au-dessus de nos têtes. Altaïr de l'Aigle, nettement plus basse au sud. Et enfin Deneb du Cygne, la plus à l'est des 3. Dans un ciel bien noir, loin de la pollution lumineuse de nos éclairages, on peut facilement distinguer le ruban laiteux de la Voie lactée, notre galaxie, dont un morceau parcourt le Cygne et le prolonge, tandis que l'autre descend le long de l'Aigle et devient très lumineux en s'approchant du Sagittaire, constellation reconnaissable à sa figure ressemblant un peu à une théière, proche de l'horizon sud, juste à côté du Scorpion. La zone sombre séparant ces 2 parties de la Voie lactée est constituée de gaz froid et de poussière, donc typiquement observable dans certains domaines de la radioastronomie dont nous venons de parler, et qui nous masque les étoiles se trouvant derrière, alors qu'en réalité, elles sont tout aussi nombreuses que dans les parties les plus lumineuses. À l'est, c'est la constellation typique de l'automne, Pégase, qui se lève, accompagnée d'Andromède, dans laquelle on peut observer la grande galaxie la plus proche de nous, l'objet le plus lointain qu'on puisse distinguer à l'œil nu dans le ciel à environ 2,5 millions d'années-lumière. Fin septembre, tout cela sera assez analogue avec la nuit qui survient plus tôt, juste avec un léger décalage vers l'ouest, et plus de constellations de l'automne visibles à l'est, comme les poissons, qui forment comme un grand V juste sous Pégase, et dans lequel on remarquera Mars, enfin levé, dès le début de nuit. Côté planète, justement, on ne peut pas rater le phare blanc éclatant au sud en début de nuit, Jupiter, qui domine de son éclat tout le ciel de l'été. Dans une simple paire de jumelles, on peut facilement observer ces quatre principaux satellites qui forment comme un alignement de quatre petites étoiles de part et d'autre de la planète et changent de position en quelques dizaines de minutes. À l'est de Jupiter, donc à gauche, un autre point lumineux légèrement jaunâtre, c'est Saturne, dont on peut admirer les anneaux dans un petit télescope, mais pas avec une paire de jumelles qui ne grossissent pas suffisamment. Mars, bien reconnaissable à sa couleur orangée, se lève actuellement vers 22h40, mais il sera déjà dans le ciel en début de nuit dès la fin septembre, alors que Jupiter, lui, aura déjà dépassé le sud. La très brillante Vénus est visible seulement le matin, à partir de 3h30 environ en ce moment, et jusque dans les lueurs de l'aube. Mais comme elle a atteint son élongation ouest maximum le 13 août, donc son plus grand écart avec le Soleil, elle se lève maintenant de plus en plus tard, et ce sera vers 4h30 fin septembre, et monte de moins en moins haut dans le ciel avant de disparaître. Nous en reparlerons sans doute lors de la prochaine chronique. En principe, ça devrait être le mercredi 30 septembre, qui sera peut-être l'occasion d'inviter de nouveau Corinne pour nous parler des animations prévues par AG33 dans le cadre de la Fête de la Science qui se tient début octobre et plus précisément du 2 au 12 octobre.
L'invitation est lancée à Corinne et puis bien sûr, au plaisir de vous retrouver donc le 30 septembre avec Joël. Ce sera Joël qui reprendra en main ce journal. Merci en tout cas Michel pour cette 66e chronique astronomie. Au plaisir. Là, je ne sais pas si vous avez prévu de voyager prochainement.
En ce moment, le contexte ne s'y prête pas vraiment. J'avais un voyage prévu cette année, c'était le 14 décembre. Je prévoyais d'être au Chili parce qu'il y aura une belle éclipse totale de soleil visible au Chili en Argentine. Ça aurait été encore l'occasion de retourner au nord du Chili dans le désert de l'Atacama, qui est un des plus beaux ciels du monde, hein, tellement il est déjà en altitude, à 2500 mètres à peu près, et surtout vierge de toute poussière et toute humidité. C'est une des zones les plus arides du monde. Hein. Il y pleut parfois pas pendant 10 ans. Mais malheureusement, les conditions de vol, etc., de voyage, sont bien, bien contrariées cette année.
Ça sera pour l'année prochaine. On reste
positif. Mais il n'y aura pas d'éclipse l'année prochaine. Ah non, oui. Sinon, le voyage au Chili, je le prévoyais plutôt vers 2024, parce que c'est le moment où devrait rentrer en service le plus grand télescope du monde qu'on est en train de construire, nous les Européens, au Chili, l'IILT, hein, Extremely Large Telescope, qui fera quand même dans les 40 mètres de diamètre, hein, 39 pour être précis. Donc ça va être vraiment un monstre. Et j'aimerais bien voir cette chose-là un de ces jours.
On va rester optimiste, Michel. Ça m'a fait plaisir de reparler aussi du site de Floirac, de l'Observatoire. Donc pour l'instant, on ne sait toujours pas ce que ça va devenir.
Pour être honnête, j'ai un peu perdu de vue les activités de Sirius. Il y a eu une réunion à laquelle je n'ai pas pu me rendre là, en début d'année. Mais bon, je sais qu'ils sont toujours actifs pour essayer que ce site ne devienne pas n'importe quoi et reste à vocation, disons, d'astronomie, de science et d'ouverture au public, hein, sans doute un... Ça pourrait être un pôle de culture scientifique sur la rive droite, en faisant un peu le pendant de Cap Science sur la rive gauche, peut-être même d'ailleurs avec une coopération possible entre les deux sites. La balle, de toute façon, quoi qu'il arrive, est dans les mains de l'université, puisqu'elle est propriétaire du site. Je sais que l'université a désigné une chargée de mission, d'ailleurs... qu'on connaît bien, c'est Nathalie Brouillet, hein, qui parle souvent d'astronomie, qui était d'ailleurs déjà à l'Observatoire un peu la personne qui ouvrait au public pour les journées du patrimoine et les choses comme ça. Et donc, elle doit travailler, réfléchir à l'avenir du site, mais tout ça prend du temps.
Bien sûr. Surtout qu'il y a des instruments qui sont précieux sur ce site.
Oui, alors ils ne sont plus vraiment au top de ce qu'on fait aujourd'hui, quand on a les grands radiotélescopes ou les grands télescopes, mais plutôt pour l'histoire, là, montrer au public un peu. Et il y avait une collection photographique impressionnante aussi, puisqu'il y a une cartographie photographique du ciel qui avait été faite. Il y a un instrument qui est très spécial, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ça. C'est ce qu'on appelle une lunette méridienne. Donc, il y a qu'un bâtiment dont le toit s'ouvre en deux. C'est quand même assez bizarre. Et en fait, c'est une lunette qui ne bouge que selon un axe. C'est-à-dire, elle monte, elle descend, mais elle ne se promène pas de droite à gauche. Parce que son but, c'est de mesurer très, très précisément la position des étoiles. Donc, avec le mouvement de la lunette au bas, on mesure la hauteur de l'étoile. Et avec une mesure du temps très précise, on mesure le passage exact de l'étoile dans le plan de la lunette. Et ça a permis, comme ça, de faire des cartes du ciel très, 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 très précises. Et c'est un instrument quand même assez particulier. Il y a le fameux radiotélescope Würzburg, qui, pour le moment, j'ai vu sur des photos, est replié. Donc, on ne le voit plus beaucoup. Il est un peu en bas, si on peut dire, de son support, de sa monture. Mais quand il était dressé vers le ciel, c'était quand même un gros engin assez impressionnant.
Bon, Michel, on pourrait parler des heures, je crois, avec vous d'astronomie.
Possible.
C'est possible. Allez, on va arrêter là pour cette 66e chronique. On se dit donc...
À la prochaine.
À la prochaine, au mois de septembre, le 30 a priori, le 30 septembre. Donc, ça sera avec Joël Gutmann, au plaisir. Je ne sais pas si vous avez encore la thématique. Pas encore.
Ah non, je la décide au dernier moment, surtout que c'est parfois en lien avec l'actualité. Bon, là, il y aura la fête de la science, oui, avec Corinne. Mais comme on arrive, ce sera fin septembre, on approche d'octobre et de la fameuse opposition de Mars qui a lieu tous les deux ans. Ce sera le 14 octobre cette année. Je pense que le sujet pourrait bien être Mars, l'opposition, les mouvements des planètes dans le ciel. Parce que c'est quand même assez bizarre, ces histoires d'opposition et de ce qu'on appelle les boucles de rétrogradation. C'est-à-dire que Mars, pendant un moment, marche à l'envers dans le ciel pendant quelques mois.
Je pense que ça peut être un sujet intéressant, en tout cas. Alors, si vous souhaitez réécouter cette chronique, alors n'oubliez pas qu'on est rediffusé déjà à 15h et à 18h. La possibilité de nous réécouter sur notre site www.audioradio.fr. Aussi sur votre site, Michel, et vous aurez la carte du ciel. Donc, on va le rappeler,
www.constellationsetgalaxies.org. Et donc, la section astronomie. Il y a différentes rubriques. Il y a une rubrique astronomie dans laquelle on trouve et le ciel du mois avec les cartes du ciel et l'historique de toutes les chroniques aux deux radios qui sont réécoutables pour ceux qui ont le courage.
Voilà, mais je ne dirais pas que le courage, je te dirais que c'est une chronique qui est assez dense et que ça demande à être réécoutée sur certains passages, parce que même moi avec l'écrit, il y a quelques passages qui demandent à être relus ou réécoutés en tout cas. Je vous remercie.